C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Harwich, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 4:09, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Dans les années 60, les postes de radio de l'Europe du Nord vont vibrer de nouvelles voix, de nouveaux sons, de nouvelles musiques. On les a appelés Offshore Radio, Pirate Radio ou Marine Broadcasters. Mais quelles que furent les expressions par lesquelles on les désignait, ces DJ de la haute mer qui opéraient depuis des bateaux ou des forts marins abandonnés ont écrit d'incroyables pages d'aventures radiophoniques et maritimes.
1 430 000 auditeurs. C'est le chiffre d'audience atteint par Radio Caroline et ses deux navires à l'automne 1964. La radio n'a mis que quelques mois à s'intégrer dans le paysage britannique. On le constate notamment en lisant la presse et surtout l'évolution dans les articles qui lui sont consacrés. Dans les premières semaines, les journaux anglais se faisaient la caisse de résonance du bras de fer opposant la station de Ronan O'Reilly aux autorités. Mais peu à peu, les journalistes se sont intéressés à la radio en tant que telle, interviewant les responsables qui vantaient fièrement la réussite du projet ou rapportant des informations sur la vie de la station. Si le Times ne parle de Caroline que dans quelques occasions, le Daily Mail, quant à lui, n'est pas avare d'articles, parfois plusieurs dans le même numéro. Si Caroline n'a jusqu'à présent jamais eu de concurrente sérieuse et a réussi à absorber celle qui aurait pu rivaliser, Radio Atlanta, les choses changent durant l'hiver 1964. Radio London fait son arrivée. La nouvelle venue n'a clairement pas l'intention de faire de la figuration. En Hollande, Radio Veronica a une concurrente, Radio Noordzee. Les promoteurs de ce nouveau projet ne se sont pas limités à briser le monopole de la radiodiffusion. Ils ont aussi lancé Télé Noordzee. Et en plus, ils n'utilisent pas un navire, mais ont carrément construit une plateforme dans les eaux internationales.
Ja, en nu een extra speciaal bericht. 25 november aanstaande presenteert Muziekparade in Markantite Amsterdam de halve finale van het kampioenschap van Nederland voor amateurorkesten. 30 orkesten zijn geselecteerd voor deze semifinale. 25 november aanstaande dus in Markantite Amsterdam.
MP Extra, extra editie Muziekparade.
Le Pénitentiaire van Johnny Hallyday is de Franse vertaling van The House of the Rising Sun.
Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini.
Billboard, 28 novembre 1964. Des artistes britanniques diffusés aux États-Unis. Londres, The Animals, The Bachelors, The Nashville Teens, The Isley Brothers et Paul Jones, chanteur principal du groupe Manfred Mann, ont récemment participé à une émission unique de Londres vers 26 États américains et une grande partie du Canada, par téléphone transatlantique. L'émission était la première d'une série à être diffusée par la principale station pirate britannique Radio Caroline, vers CKLW Detroit. Les deux stations se relaient pour téléphoner une émission de 30 minutes depuis le pays de l'autre chaque semaine. La partie britannique est téléphonée depuis Caroline House à Londres et utilisée dans l'émission de 4 heures du disque jockey Terry Knight. Il interviewe tous les artistes dans le studio britannique et passe ensuite leur disque. CKLW renvoie le même type de matériel pour une utilisation similaire ici. Dans le même numéro, un article est consacré à l'arrivée de Radio London et l'on y apprend notamment qu'elle sera la première radio offshore à émettre 24 heures sur 24. L'arrivée de cette nouvelle station est prise très au sérieux par l'équipe de Caroline et pour tout dire, c'est un peu l'inquiétude. On le sait aujourd'hui, Ronan O'Reilly fit une offre de rapprochement à Philip Birch, le directeur de Radio London. Il proposa la fusion des deux agences de publicité, le transfert des émissions de Caroline South vers le Galaxy et l'utilisation du Miamigo pour démarrer un troisième programme, Caroline Continental. À Radio London, on considéra cette offre avec une sorte de condescendance et les conditions émises par la nouvelle venue pour la réalisation d'une telle fusion furent tellement inacceptables pour Radio Caroline qu'il n'y eut pas de suite. Malgré tout, Ronan O'Reilly se comporta en gentleman le jour où le Galaxy jeta par erreur l'ancre dans les eaux territoriales. Il le signala à sa concurrente et le capitaine déplaça le navire vers un nouveau lieu à Walton-on-the-Naze, près du Mi Amigo. Les deux concurrentes allaient donc être voisines. Le 30 novembre, Radio Caroline diffuse simultanément sur ces deux programmes une émission spéciale célébrant le 90e anniversaire de Sir Winston Churchill. Tout en faisant figure de radio qui bouscule l'ordre établi, elle ménage aussi sa respectabilité et témoigne de sa déférence à l'histoire britannique et à ses prestigieux représentants.
The time is 3 o'clock and you are listening to a program from Radio Caroline dedicated to Sir Winston Churchill, today celebrating his 90th birthday. The Battle of Britain.
The British Air Force, desperately outnumbered, inflicts heavy losses on the enemy.
40 or 50 squadrons of British fighter aircraft in the Battle of Britain broke the teeth of the German air fleet at odds of 7 or 8 to 1. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
Dans le même état d'esprit, la station aux deux navires souhaite aussi diffuser le traditionnel message de fin d'année de la reine. The Daily Mail, mardi 1er décembre 1964. Discours de Noël inaccessible aux pirates, par Douglas Marlborough. La BBC refuse d'autoriser Radio Caroline, le navire pirate de la radio pop, à diffuser le message de la reine le jour de Noël. La nouvelle a suscité ce commentaire d'un porte-parole du palais de Buckingham hier soir. Très honnêtement, nous pensions que la diffusion serait disponible pour toutes les autorités de radiodiffusion. Nous ne spécifions pas qui devrait la diffuser. C'est à la BBC de décider qui le diffuse. La BBC préenregistrera le message de la reine pour la télévision et le son dans la semaine précédant Noël. Mr. David Block, le porte-parole officiel de Radio Caroline, a déclaré « J'ai téléphoné à Mr. Charles Curran, le secrétaire de la BBC ». Et lui a demandé un enregistrement. Il n'a cessé de dire que nous n'étions pas une station autorisée. Nous avons maintenant fait une demande officielle par écrit et attendons la réponse de la BBC. Ces réflexes un peu archaïques d'une chasse gardée permettent à la radio maritime de faire encore une fois parler d'elle, et c'est la station publique qui lui offre ce coup de projecteur. Mais derrière cette polémique, la BBC montre en fait qu'elle est très embarrassée. Il faut dire que dans les couloirs de la vénérable institution, les choses bougent. Qu'ils le veuillent ou non, les responsables de la BBC doivent admettre que la radio flottante commence à avoir une influence. En effet, la diffusion de musique pop a connu une spectaculaire augmentation en cette fin d'année 1964. Sur le programme le plus populaire, non seulement cette musique est deux fois plus diffusée qu'à la même période un an auparavant, mais de nouvelles émissions ont fait leur apparition, comme Top Gear le jeudi, le Saturday Club et le Saturday Swing, ainsi que Easy Beat et Pick of the Pop le dimanche. La BBC diffuse également maintenant jusqu'à 2h du matin. En Hollande, l'audience de Radio Veronica est toujours très élevée. Dans le courant du mois de novembre, la radio a quitté le Borkum Riff, son navire historique, pour s'installer à bord du Norderney, un ancien chalutier. Plus grand que le Borkum Riff, le nouveau bateau a été spécialement aménagé et il est largement plus fonctionnel. Le gouvernement semble ne plus s'intéresser à la doyenne des radios offshore. Il n'en va pas de même, en revanche, pour Radio Nordsee et Rem Island. Le 1er décembre, la loi tant attendue concernant l'extension de l'autorité à un plateau continental plus étendu fut votée et ratifiée par le Parlement néerlandais. Elle allait prendre effet 12 jours plus tard. Rem Island se situait donc désormais sur le territoire néerlandais. Télé Noordzee cessa ses émissions le 14 décembre, mais Radio Noordzee continua à émettre. Le 17 décembre, la police néerlandaise opéra un raid spectaculaire sur Rem Island. Un peu avant 9h du matin, un bateau des forces maritimes prit position à 200 mètres de la plateforme. Puis, trois hélicoptères apparurent et survolèrent d'abord l'île Rem. L'un d'entre eux largua une fusée éclairante et les deux autres se posèrent sur l'héliport. Des policiers solidement armés en descendirent et investirent rapidement la plateforme. Il était 9h03. 4 minutes plus tard, Radio Noordzee cessait d'émettre. Le dernier disque programmé fut Annek Granlo, Paradiso. C'en était fini de Rem Island.
U luistert naar Radio Noordzee op 214 meter.
En cette fin d'année 1964, l'histoire des radios offshore va connaître sa première tragédie. Radio Invicta peinait à séduire les annonceurs. Début décembre, Tom Pepper, son directeur, démarcha l'hebdomadaire News of the World, qui était un gros client de Radio Caroline. Le titre à grand tirage accepta de prendre une publicité d'essai sur Radio Invicta pour le 19 décembre et fit savoir que si les retombées étaient bonnes, il pourrait investir davantage. Galvanisé par ce succès inattendu, Tom Pepper et l'animateur Ed Moreno quittèrent le port de Faversham le matin du 16 décembre à bord du navire de liaison le David, en direction de Red Sandford, où se trouvaient les studios, afin d'enregistrer le spot publicitaire. L'embarcation déposa Moreno sur le port et repartit pour ramener à terre Tom Pepper, ainsi que le DJ Simon Ashley et l'ingénieur du son Martin Shaw. Vers 18h le même jour, une vedette de la police localisa un corps accroché à un radeau de sauvetage, près de la plage de Reeves Beach à Whitstable, et suspecta fortement qu'il s'agissait d'un membre de Radio Invicta, du fait de la proximité du fort. Un peu plus tard dans la soirée, Ed Moreno fut invité à identifier le corps, et il confirma qu'il s'agissait de Tom Pepper. Puis il revint au fort pour annoncer la terrible nouvelle aux auditeurs.
Today, we on Radio Invicta are deeply grieved. The loss of our chairman, not only our chairman, but our very dear friend, Sir Tom Pepper, in itself, hard enough to take and bear. Then coupled with the loss, and we pray to God that they're only missing two of our staff, is also more than we can bear. We pray to God to search, to look, to watch every wave, that at least their two bodies will be found alive and with breath. Alas, nothing more can be done for our dear Tom. He's safe in the arms of God. And I speak to you as I can only speak with my heart. And I know that everyone here on the station speaks with me. Possibly last night on television you heard the news. If not, you would read it in today's paper. Think not of us.
Dans son message, Ed Moreno priait pour que les deux autres occupants de l'embarcation soient retrouvés vivants. Mais ce ne sera pas le cas. Quelques jours plus tard, des débris de l'embarcation furent retrouvés à Reeves Beach et il fallut attendre plusieurs mois pour qu'un second corps soit repêché. il fut identifié comme l'un des occupants du David grâce à une bande magnétique retrouvée dans sa poche. Un enregistrement de Radio Invicta. Radio London fit officiellement son arrivée sur les ondes le 23 décembre à 6h du matin. Elle faillit bien se nommer KLIF London et avoir des liens très forts avec KLIF Dallas, dirigé par Gordon McLondon. Une partie du staff de la nouvelle venue fit valoir qu'un format trop américanisé et des programmes conçus à Dallas pour un public texan risqueraient de ne pas séduire le public anglais. On opta donc pour le nom Radio London. Et un format certes très influencé par le style des radios américaines, mais que l'on tenta d'adapter au public anglais. Certains des bailleurs de fonds américains eurent du mal à accepter ce compromis. Et cela provoquera une scission quelques temps plus tard.
Baby, I need your love in 24 past the hour of 9 o'clock. You're listening to that fabulous new sound.
Wonderful Radio London.
And it's a happy sound all day long from 8 to 8 today. It's really great. We're testing your way. The latest happy sound from the Everly Brothers, Don and Phil. This is called Gone, Gone, Gone.
Quelques mois, la BBC s'est sentie obligée d'adapter un peu ses programmes face à la concurrence de Radio Caroline. Cette dernière se trouve maintenant un peu aussi dans cette situation face à l'arrivée de Radio London. La différence étant qu'à Radio Caroline, on a réagi beaucoup plus vite qu'à la BBC. Trois jours après l'arrivée sur les ondes de Radio London, Caroline's House, qui est la plus menacée, propose un programme spécial animé par Kate Skew, qui s'appelle Around the World. Durant 2 heures, la radio propose un tour du monde musical en commençant par la Grande-Bretagne. Et des artistes ou personnalités des médias du monde entier se succèdent à l'antenne pour présenter leurs vœux aux auditeurs. Il y a quelques noms connus, Cliff Richard, The Animals, mais surtout The Beatles.
The sound of good music. And from Cliff and the Shadows to The Beatles.
Hello everybody, this is Paul, and I'd just like to thank you all for buying our records during the past year. Oh, we hope you've enjoyed listening to the records as much as we've enjoyed melting them. No, that's wrong. Making them. Well, that's about all, I think. Sir, to wish you all a happy Christmas and a very new year.
John speaking. Thanks all of you who bought me book. Thank you, folks, for buying it. It was very handy. And there's another one out pretty soon, it says here. It's been a busy year.
Did you write this yourself?
No. It's somebody's bad hand wrote her. It's been a busy year, Beetle Peetles, one way and another, but it's been a great year. Crimble, maybe, and I hand you to George, who'll speak to you. Now!
Hi there! I'd like to thank all of you for going to see the film. Spect a lot of you saw it more than once. The next one should be completely different. We start shooting it in February. This time, it's going to be in colour.
Green.
It'll be a big laugh, we hope. Well, we it'll be a big laugh.
You and Megan?
And we may see all of you soon. Hope so, anyway. All the best in Happy New Year.
Ringo here. It's been a funny year, you know. One minute we're in England, next we're away. Expect you're wondering where we've been.
So
well, Beatle people. we've been to Australia and America and who's top in there? New Zealand. And Australia.
And New Zealand.
Is that New Zealand? So much travelling, but you've stayed loyal, haven't you? Anyway, those airport receptions knocked us out, man. Great.
Dig.
Well, that's about it for me. A happy new year.
Can you wash your bottle, sir? Can you wash your clean? Or can you wash your bottle, sir? Can you wash it clean?
Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.
Billboard, 16 janvier 1965. Plan, les affamés. La Grande-Bretagne envisage le naufrage des navires pirates par embargo. Londres, le gouvernement britannique envisage d'affamer les stations de radio pirates dans le cadre d'un accord conclu avec d'autres pays européens. Au début de cette année, un projet de loi sera présenté au Parlement interdisant à quiconque de fournir aux navires radio de la nourriture, du carburant ou tout autre moyen de les faire fonctionner, y compris la publicité. Juste avant Noël, le Conseil de l'Europe, réuni à Strasbourg, a élaboré un accord visant à interdire les navires radio. Il sera signé le 25 janvier par la Grande-Bretagne et d'autres pays européens. L'accord pourrait être adopté par l'Union internationale des télécommunications, qui souhaite également éradiquer toutes les stations de radio et de télévision pirates. La Grande-Bretagne a maintenant 5 stations pirates qui diffusent sur son territoire. Il s'agit de Caroline North et South, de Radio London, toutes opérant en dehors des eaux territoriales, et de Radio Invicta et Radio City, qui sont basées dans des forts désaffectés dans l'estuaire de la Tamise. Elles ont toutes réalisé d'énormes affaires publicitaires depuis leur ouverture au cours de l'année écoulée. Jusqu'à 6 millions de personnes les écoutent aux heures de pointe. En vertu de la loi actuelle, quiconque écoute une station pirate est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à $150. Mais il n'y a jamais eu de poursuite judiciaire à ce sujet. Si l'article du Billboard révèle un début d'offensive internationale, il met aussi en lumière la difficulté à trouver une réponse appropriée au phénomène des radios offshore. London et Caroline, qui ont toutes les deux des ambitions, sont maintenant engagées dans une concurrence mutuelle. La pionnière des radios offshore britanniques décide d'ouvrir un bureau de représentation à Broadway et Ronan O'Reilly fit quelques apparitions dans des émissions de télé américaines. Radio Caroline signa surtout un contrat avec Roulette Records en vue de diffuser le Jack Spector Show, le programme du DJ vedette de WMCA à New York. La future diffusion de cette émission sur les deux programmes anglais de Caroline annonçait le début d'une américanisation de l'antenne, pour s'aligner un peu sur le style de Radio London. Ronan O'Reilly défia aussi le Conseil de l'Europe et engagea un avocat pour intenter une démarche auprès de l'ONU. Selon lui, en effet, les dispositions que s'apprête à prendre le Conseil de l'Europe et que la Grande-Bretagne pourrait appliquer sont contraires à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1949, précisément signée par la Grande-Bretagne. De plus, le fondateur de Radio Caroline pointe le fait que si le gouvernement anglais essaie de prendre des dispositions pour bloquer l'approvisionnement des navires radio, il sera toujours possible d'assurer des liaisons depuis l'Espagne et le Portugal, qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe.
This is Radio Caroline calling all businessmen. May we have your attention, please? Here is a special message for you.
Gentlemen, for a successful advertising campaign, consult us at Radio Caroline sales office at 6 Chesterfield Gardens, London, West 1. Telephone Hyde Park 9721. Take advantage of our expert staff of commercial radio consultants who are employed to deal with the specialized media of advertising. Commercial radio advertising, correctly administered, is the soundest investment for any business. Remember, for further details of airtime on Radio Caroline, contact
Caroline Sales, 6 Chesterfield Gardens, London, West 1. Telephone Hyde Park 9721. That's 6 Chesterfield Gardens, London, West 1. Telephone Hyde Park 9721. And thank you.
20 millions, un chiffre magique. C'est le nombre d'auditeurs séduits par les programmes des 5 radios offshore anglaises. Et ce chiffre prend encore plus de relief quand on sait que la BBC touche environ 26 500 000 personnes. La presse régionale commence à s'inquiéter de possibles pertes de recettes publicitaires au profit des radios flottantes. Plusieurs titres régionaux auraient souscrit des assurances de précaution. D'autres tentent de constituer des équipes en vue de créer des stations de radio locales dans le cas où la législation évoluerait.
New toffee, please.
A crunch and a chew and a crunch and a chew.
New toffee, please, have twice the fun, because you get two sweets in one.
Candy on the outside,
toffee on the inside,
please, have fun, two sweets in one.
New toffee, please.
Cilla Black.
Radio Invicta ne va pas survivre à la noyade de son fondateur, Tom Pepper. Après sa disparition, sa veuve et les deux autres associés ont voulu poursuivre l'aventure. Mais de nombreux désaccords sur la propriété de la station, ainsi que sur la manière de la diriger, ont conduit à sa fermeture. Radio Invicta cesse discrètement ses émissions le 11 février 1965. De nombreuses rumeurs ont circulé sur le naufrage du ravitailleur de Red Sanford et la mort de Tom Pepper, de Martin Shaw et de Simon Ashley. L'épave du David fut finalement localisée par des plongeurs 6 mois plus tard et fut récupérée.
In the air and everywhere, you're tuned to your station with the big sound, 306 Radio Invicta, the show at the moment, the noon show, with yours truly, your long tall DJ, Bruce Holland, mic side.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares.
Red Sanford ne va pas pour autant être abandonné. Les deux anciens associés de Tom Pepper décident de lancer une nouvelle radio et ils s'adjoignent les services du DJ Mike Raven, qui avait déjà travaillé pour Radio Atlanta et Radio Invicta. La nouvelle station débute des essais de transmission durant la première quinzaine du mois de mars. Elle s'appelle King Radio.
Your day by day holiday. King Radio, London. Heralding a new big sound of music and news over London, this is the KING test transmission.
King Radio débute officiellement ses programmes le 24 mars et son premier slogan est « Wonderful Words, Wonderful Artists ». Il s'agit bien sûr d'une radio musicale. Les titres joués sont issus du répertoire des crooners et de la variété. Les animateurs lisent fréquemment des poèmes entre les disques. King Radio propose donc un format très différent de Radio City, Caroline ou Radio London. Cette dernière est en train de prendre l'avantage sur sa voisine de mer. Caroline House commence en effet à souffrir d'un programme mal défini, alors que Radio London propose une antenne d'une redoutable efficacité. En mars, un étrange incident va se produire autour du Galaxy, le bateau de Radio London. Un armateur grec, Pandelis Tsirbis, se présenta au bureau londonien de la station en prétendant que le navire lui appartenait toujours. Il expliqua qu'il avait effectivement bel et bien vendu le Galaxy aux actionnaires de Radio London, mais qu'il n'avait jamais touché l'argent, en conséquence de quoi, il demandait la restitution du bateau. Visiblement, la somme avait été versée sur un compte dont Tsirbis n'avait pas connaissance. Philip Birch débloqua la situation et apparemment tout rentra dans l'ordre. Apparemment seulement, car l'histoire refera surface quelques années plus tard lors d'une tentative de rachat du Galaxy par une autre radio offshore. Le fait sera toutefois bien vite oublié, éclipsé par un événement qui va permettre à Radio London de faire figure de station héroïque. Le 20 avril 1965, le pilote John Wynne de la United States Air Force effectue un vol d'entraînement entre Laon, en France, et une base aérienne britannique. Mais son F-101 Voodoo Tactical connaît des problèmes de moteur, et le pilote est contraint de s'éjecter au-dessus de l'estuaire de la Tamise sans avoir pu lancer un appel de détresse. Blessé au dos lors de sa chute, John Wynne perd connaissance non loin du Galaxy de Radio London. Le ravitailleur du navire radio se rendit immédiatement sur zone et repêcha le pilote. Puis il se dirigea vers Harwich où une ambulance attendait le blessé. Bien évidemment, la nouvelle figura en ouverture des journaux de la station. Et c'est vrai qu'il n'est pas exagéré de dire que l'équipe de Radio London sauva probablement la vie de John Wynne. L'événement fait la une du flash de 16h30 durant l'émission de Tony Windsor.
Pilot rescued by the offshore, Radio London's offshore. We'll bring it to you as we receive it.
On the half hour, Radio London News.
Dateline, Tuesday, April the 20th. Less than 2 hours ago, Radio London's tender Offshore One rescued an American jet fighter pilot from within 100 yards of this radio ship. He is First Lieutenant John C. Wynne, stationed at Lyon, an American air base in France. Due to instrument failure, he had been unable to give a mayday signal before parachuting into the sea, and it is fairly certain that he would have died quickly in the ice-cold water but for the presence of Radio London's tender and the disc jockeys who helped him out of the water. Industry. It's been announced that Ford's are to buy the Prestcoal factory and...
C'était les DJ de la haute mer, 9e épisode.
The Minister of Education, Mr. Anthony Crossland, has assured teachers of a substantial pay rise, providing they tackle...